Découverte, rencontre, création. Partageons-les sur Calade.
Ma radio.
L'immigration, un sujet d'actualité et un phénomène qui a toujours existé, car l'humanité s'est constituée à partir de migrations de populations, un processus qui se retrouve à l'échelle de l'ensemble du vivant. La médiathèque Pierre Mendès France de Villefranche-sur-Saône vous donne rendez-vous le 5 février prochain pour une conférence sur le thème « L'immigration à Villefranche au XXe siècle » par Jean Large et Michel Corlin, tous deux historiens dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Amis de la Société Populaire à 18h. Une conférence qui a fait donc l'objet d'une enquête et qui vous apporte une analyse statistique qui commence dès 1911 pour la ville de Villefranche-sur-Saône. Nous donnons la parole à Jean Large et Michel Corlin, conférenciers.
Les historiens choisissent toujours leurs objets d'études en fonction du présent. Or, vous n'ignorez pas que l'immigration est un sujet de discussion politique. Le rôle des historiens n'est pas de donner des leçons, mais simplement, en éclairant le passé, de permettre des pistes de réflexion pour le présent.
Premier travail, évidemment, c'est cette fameuse enquête.
Il faut dépouiller les archives.
Sur quelle période plus particulièrement vous vous êtes intéressé?
Alors, le premier recensement est celui de 1911, qui est un recensement très intéressant parce qu'il est très très complet. Et puis, le dernier accessible, c'est celui de 62.
Vous avez imaginé une chronologie, en quelque sorte,
oui,
non?
C'est oui, ça oui. Les deux guerres mondiales structurent vraiment le phénomène migratoire à Villefranche. On a, avant la Première Guerre mondiale, un système, et puis dans l'entre-deux-guerres, et puis après 1945.
Oui. À quelle période, plus particulièrement, on peut dire qu'il y a l'immigration à Villefranche-sur-Saône?
Avant 1914, l'immigration est faible à Villefranche. Nous avons un chiffre pour 1851. Et en 1851, on nous dit qu'il y a 13 personnes étrangères à Villefranche, donc ce qui est très faible. Mais ça s'explique parce que la France, au XIXe siècle, est extrêmement peuplée. C'est le pays qui a la plus forte densité en Europe, et donc on n'a pas besoin d'immigration. Mais dans certaines zones bien précises, par exemple, dans le sud de la France, une immigration italienne, par exemple à Marseille, ou une immigration belge dans le nord, dans les mines. Mais sur Villefranche, on a une immigration faible, pour moitié l'immigration italienne. Les Italiens représenteront la moitié de l'immigration jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
C'est une immigration de frontières, finalement,
oui.
Michel Corlin, c'est ça?
Oui, effectivement, c'est une immigration de frontières, essentiellement italienne, qui arrive par Modane.
Alors, on parle des Italiens, mais il y a également une immigration suisse et une immigration allemande, qui n'est pas vraiment allemande, parce que, en fait, ce sont des Alsaciens. Mais avant 1914, l'Alsace étant allemande.
Les raisons de cette migration, justement, sur ces pays?
Il y a deux raisons. D'abord, la pauvreté, souvent, au pays d'origine. La Suisse, avant 1914, n'est pas le pays riche que nous connaissons maintenant. Et puis, deuxième raison, c'est qu'on a besoin de travailleurs en France. C'est une immigration du travail.
Que vient-on chercher comme travail à Villefranche-sur-Saône?
Alors, il y a des usines à Villefranche, des usines textiles, teinturerie, un secteur très important. Et dans le textile, c'est surtout des filatures et du tissage.
Est-ce que c'est une migration familiale?
La plupart du temps, ce sont des célibataires qui viennent. Ensuite, il y a des regroupements familiaux, mais il y a beaucoup de célibataires.
Michel Corlin, c'est une immigration qui s'installe, s'intègre?
Elle a plutôt tendance à rester. Pour préciser le propos de Jean, donc les hommes sont surtout dans l'industrie, le bâtiment, l'artisanat. Et pour répondre à votre question sur les femmes, elles sont plutôt dans la domesticité et le textile qui a une part importante à Villefranche.
Donc en 1914, Villefranche-sur-Saône est déjà une ville économique, en quelque sorte, industrielle.
Ah ben, énormément, oui. Maintenant, il faut relativiser le propos. En 1911, Villefranche compte 208 étrangers pour 16 000 habitants. Une immigration relativement limitée. Mmh. On voit qu'elle est essentiellement économique.
Et avec, donc, on disait, des familles qui s'intègrent, qui restent sur le sol français.
Oui, enfin, qui ont quand même de la difficulté à s'intégrer. Les conditions d'installation sont extrêmement difficiles. Peu de choses sont faites pour ce type de population qui arrive. Hein. Elles doivent se débrouiller énormément par elles-mêmes. À cette époque-là, les syndicats ne sont pas forcément très ouverts à ce type de population. population qui vient effectivement mordre un petit peu sur l'emploi dit national.
Alors, ce que les syndicats, ce que les ouvriers français leur reprochent, c'est pas tellement le travail, c'est d'avoir des salaires inférieurs, de tirer les salaires vers le bas par une concurrence qu'ils jugent déloyale.
Ensuite, dans les immigrations qui arrivent, les autres immigrations qui arrivent ?
Alors les autres immigrations, bon, ben, on continue toujours avec des immigrations très européennes. Viennent s'ajouter, alors dans les années 30, mais même avant, les Espagnols, le Pertus jouant le rôle de Modane pour les Italiens. Puis avec la guerre d'Espagne, effectivement, on aura une accélération du contingent espagnol. On a également des Polonais qui viennent.
C'est la création de la Pologne en 1919, un pays très pauvre, très peuplé, et le gouvernement polonais cherche à se délester d'une partie de la population. Un accord est signé dès 1919 avec le gouvernement français qui ouvre des bureaux de recrutement en Pologne. C'est un accord entre États pour permettre à des Polonais de venir travailler en France.
C'est des allers-retours ou...
Il y a des allers-retours parce que après 1936, crise économique en France, on va organiser le retour d'un certain nombre d'entre eux.
Après 1919, donc après la guerre, la France, qui a beaucoup souffert humainement
et en termes de bras,
a besoin d'énormément de bras. Les Polonais peuvent arriver par séquence. Leur premier travail, c'est souvent dans les mines du Nord, puis ils arrivent ensuite sur des régions comme Villefranche.
Les Polonais travaillent surtout dans l'industrie. Et souvent, d'ailleurs, les tâches les plus pénibles, en particulier chez La Rochette, à la fabrication des pansements ou des teintureries, dans des conditions de travail très pénibles, avec des très fortes températures. Les Italiens se spécialisent un petit peu dans le bâtiment, en particulier la maçonnerie dans les années 30.
La Rochette, c'est une entreprise historique.
Oui, elle est née avant 1914, mais la guerre de 14 va lui permettre un développement très rapide parce qu'il fabrique des pansements pour les blessés de la guerre. C'était racheté, et puis après c'était Mulsanne, et après ça a été délocalisé dans d'autres pays. Il ne reste plus que des lieux de stockage en France.
Alors, je crois qu'il y a trois vagues de migration.
Eh bien, la troisième, c'est après 1945, l'immigration algérienne, qui est très importante et qui est difficile à déterminer en 1946 parce que, d'après les recensements, ces personnes sont françaises et donc elles ne sont pas portées étrangères dans les registres d'après-guerre. Alors, leurs conditions d'installation sont particulièrement mauvaises. Nous avons des lettres retrouvées aux archives municipales. Par exemple, la commune laisse le vieux château de Belleroche, qui est en ruine, pour loger ces travailleurs algériens. Les témoignages que nous avons sont terribles. Il n'y a même plus de vitres aux fenêtres, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. La commune n'a rien à leur proposer. Les tâches les plus pénibles, les plus difficiles dans l'industrie, dans les travaux publics, et même la commune de Villefranche emploie un certain nombre de ces travailleurs algériens, qu'on loge soit dans le château en ruine, soit dans des baraquements derrière le cimetière. Il y a même un projet, c'est de réhabiliter une ancienne maison close qui se trouvait à Villefranche pour en faire un hôtel pour les Algériens.
Il y a eu le regroupement familial, effectivement.
Le regroupement familial vient plus tard.
Il arrive plus tard. En 1974, voilà. Sur la volonté d'insertion et d'intégration. On passe d'une immigration économique que l'on veut de plus en plus contrôler à une volonté d'intégration, puisque les lois vont sans cesse se durcir jusqu'à nos jours.
Une petite chose, c'est que ces travailleurs algériens sont français jusqu'en 1962. Et en 1962, ils deviennent étrangers. Avec l'indépendance de l'Algérie, donc ils doivent choisir leur nationalité, beaucoup pour des raisons sentimentales ou pour pouvoir retourner en Algérie, choisissent la nationalité algérienne et du coup ils se retrouvent étrangers en France. Ils choisissent la nationalité algérienne, ce qui leur pose des gros problèmes. Par exemple, nous avons un document d'un travailleur algérien qui en 63 demande sa retraite et on lui dit non. Vous n'êtes plus français, donc vous n'avez droit à rien. Alors il va y avoir ensuite des accords. Ces gens-là vont subir quand même des conditions particulièrement pénibles.
On a parlé effectivement de cette immigration qui me paraît plus masculine. Alors jusqu'en 1962, à quel moment les femmes, elles aussi, arrivent ?
Il y en arrive toujours. Mais par exemple, les Espagnols arrivent souvent en couple. Les Polonais, non. Les Italiens, pas tout de suite. Parce que les Italiens viennent, repartent, reviennent, ce qui complique d'ailleurs...
Les statistiques.
Voilà, les statistiques. Voilà. Mais les femmes, bon, elles travaillent aussi comme ouvrières, comme femmes de ménage avant la guerre de 14, puis après comme ouvrières, on les trouve là vraiment dans la confection.
À partir de 1962, donc, c'est toutes les autres migrations, c'est-à-dire les migrations portugaises, subsahariennes, jusqu'à aujourd'hui.
Plus on avance, plus le monde s'ouvre à l'immigration. Donc avant 1914, ce n'est qu'une immigration des pays voisins. Maintenant, c'est à l'échelle mondiale, bien sûr. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de bien faire la différence entre immigrés et étrangers. Parce que ce qui complique la lecture des statistiques, un immigré, c'est une personne d'une nationalité étrangère qui arrive sur le territoire français. C'est un étranger né à l'étranger. La nationalité, c'est un acte simplement juridique qui lie une personne à un État, et c'est uniquement administratif. Donc on a des immigrés qui sont français, parce qu'ils ont obtenu la nationalité française par mariage ou par procédure administrative, ils sont là depuis très longtemps. Et inversement, on peut avoir des Français qui sont étrangers, par exemple des fils d'étrangers. Les choses sont assez difficiles quelquefois à démêler, ce qui explique qu'on peut avoir des chiffres très contradictoires et qu'on peut évidemment les manipuler.
Donc on peut dire que l'immigration d'hier ou d'aujourd'hui a toujours existé.
Oui, même on peut dire depuis que l'homme existe. La sédentarisation date en fait de 12 000 ans avec l'arrivée de l'agriculture. Les hommes se sont toujours déplacés. Et d'autre part, ce que l'on voit sur le XXe siècle, cette immigration a été extrêmement importante pour le développement de l'économie française.
Et aujourd'hui, ce qui n'existait pas avant, effectivement, le réchauffement climatique qui fait que...
Aussi, voilà.
De plus en plus, on passe les frontières.
Voilà, bien sûr. Il faut bien avoir à l'esprit l'idée que on ne part pas de chez soi par gaieté de cœur. On part parce que les conditions sont trop difficiles.
On le voit très bien dans la géopolitique des pays de départ. Effectivement, à l'origine, on a des migrations qui sont sur les pays très voisins, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les Espagnols, les Italiens, les Suisses. Et puis, petit à petit, il y a une ouverture très large qui va sur le bassin méditerranéen, évidemment, puisque ancienne colonie, mais également des populations comme la Turquie, et puis ensuite on va aller sur l'Afrique subsaharienne. Donc on voit qu'on a un très grand élargissement de ce recrutement, entre guillemets, de l'immigration.
Et aujourd'hui aussi l'Asie et...
Bien sûr, alors bon, il y a tout le phénomène colonial également, hein, puisque Vietnam, Laos, Cambodge, etc., qui sont des populations qui, au départ, avaient même la possibilité de parler la langue, donc ce qui pouvait favoriser, dans une certaine mesure, leur arrivée et parfois leur intégration.
La France a toujours été un pays d'immigration. Situé au bout du continent eurasiatique, la France a été toujours un pays d'immigration, et puis toujours.
Merci à tous les deux. Merci à tous. Rendez-vous à la médiathèque Pierre Mendès France le jeudi 5 février à 18h pour une conférence « L'immigration à Villefranche au XXe siècle » par Jean Large et Michel Corlin, historiens, dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Amis de la Société Populaire.
Découverte, rencontre, création, partageons-les sur Calade.
Ma radio.